Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
18h tout pile sur RMC, bonsoir à tous, bienvenue dans Roten sans flamme. Une émission exceptionnelle aujourd'hui, oui, on a plein d'infos, on va refaire le football comme tous les jours, mais encore plus que d'habitude. Voilà, on a décidé de mettre les bouchées doubles aujourd'hui. Alors déjà parce qu'on a un casting de rêve à commencer par Jean-Louis Tour. Salut Jean-Louis.
Salut Jérôme, salut tout le monde.
Ouais, ça va?
Ouais, ouais, bien sûr. Ouais, un vrai casting athlète. De rêve comme tous les soirs.
Un vrai athlète, là. Là
on sent l'été. En train de m'affûter là.
Ouais. Mais pas trop serré quand même, hein. Les t-shirts.
Ah, ils sont tous trop larges maintenant.
Il y en a un qui est de moins en moins affûté et je suis étonné, hein, quand même, c'est Manu Petit. Salut Manu.
Tu rigoles quoi?
Il a pris un peu, mais bon, ah ouais, écoute, ses voyages en Thaïlande, en Angleterre. C'est demain, pardon. Voilà,
ouais. Mais Manu, il bouge pas.
Non.
Il a une époque compliquée.
Ça, il bouge pas.
Je suis bien là.
Ouais. Non, t'as pris un peu.
Je rentre dans des jeans que je rentrais plus.
Je t'ai vu. Mais bon, c'est pas grave, va partir.
Non, mais il y a pas de souci.
Il y en a un qui a pas pris un gramme. Et lui est vieilli, mais il prend pas un gramme. Il prend même pas d'âge. C'est Jean-Michel Larqué.
Toi aussi, tu vieillis. Salut, toi aussi, tu vieillis.
Ah bah oui, moi je vieillis, ça c'est vrai.
Nous, hein, de 24 heures tous les jours à peu près, c'est grosso modo. Non, moi je suis une épée. Je ne suis qu'un seul muscle.
Non, mais toi t'es parfait. Ouais, c'est pour ça.
Messieurs, ce soir. Roten ne fait pas que des lipettes, Roten s'enflamme sur les 30 ans de la victoire de l'OM en Ligue des Champions. C'est vendredi, l'anniversaire officiel, mais ça va nous donner l'occasion de débattre. Êtes-vous nostalgique des présidents à la Bernard Tapie? 32-16, appelez-nous pour participer au débat, ce sera tout à l'heure à 19h. À 18h30, le projet Ineos à Nice, ce sera l'accusé du soir, accusé d'être une arnaque, une fraude, puisque l'OGC Nice n'a toujours pas décollé depuis 3 ans que les dirigeants d'Ineos sont présents au club.
Culotté, celui qui l'a accusé.
Moi, bon, je suis pas sûr. À 18h45, le casar enchaîné.
Il y en a qui sont déculottés.
Il nous fait une grosse semaine.
Vous êtes culottés.
D'ailleurs, dès que vous avez 2 secondes, faites-vous les podcasts des casars enchaînés de ce début de semaine, notamment hier, la discussion Neymar-Vinicius, magnifique. Aujourd'hui, la négociation entre Kylian Mbappé et Nasser Al-Khelaifi, parce que justement, le feuilleton est de retour. Presse.
Salut Kylian.
Salut.
C'est un odeur pour moi. Tu fais partie des meilleurs de la galaxie foot aujourd'hui et ça c'est bien. Ça c'est bien, Kylian, bravo. Non, tu vois pas les choses comme ça, mais t'as raison. Heureusement que t'es là, hein. ne parle pas, Kylian, on va s'emmerder. Là. Faut respecter juste l'homme et en tout cas, voilà, t'es une bonne personne et puis on se reverra pour soulever la Ligue des Champions alors.
Cette prévision là.
Les choux.
C'est pas qui était le chat noir sur le coup là, mais c'est lui ou moi. Parce que franchement.
C'est vrai.
Bah, alors, on embrasse Elsa par contre.
Ce matin, nos confrères de l'équipe ont rappelé la situation contractuelle de Kylian Mbappé à Paris. De quoi nous remettre en tête que son cas peut poser question très rapidement. On rappelle qu'il est libre en 2024 s'il décide de ne pas lever cette fameuse option cette année supplémentaire. Alors, cette situation peut-elle poser problème? 32-16, appelez-nous pour en débattre. Arthur Perrault nous rejoint, lui qui suit le PSG au quotidien. Salut Arthur.
Salut, monsieur, bonsoir. Salut, Arthur.
Ne pas lever l'option d'un an supplémentaire, c'est pas la tendance, hein.
Oui,
Kylian Mbappé a la tendance de ne pas lever l'option.
Exactement, Kylian Mbappé qui met l'impression sur les dirigeants parisiens avec ce refus. L'attaquant ouvre la porte à un départ libre du PSG en 2024. Le champion du monde reste très déçu par le dernier marché des transferts raté l'été dernier, par une prime non versée à temps en début de saison. Mais rien ne l'empêche aussi de renouveler son bail à n'importe quel moment à Paris. Personne n'imagine la saison prochaine sans son joueur star. Une source interne explique qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Selon elle, Mbappé serait quand même satisfait de la direction que prend le club, qui veut toujours en faire son leader. Une chose est sûre, le Real Madrid sera une nouvelle fois à l'affût pour le faire venir. Manchester United devrait aussi être attentif à l'évolution du dossier. La nouvelle saison de la série Kylian Mbappé promet encore de nombreux épisodes.
Alors, tout va pour le mieux ou est-ce qu'il peut y avoir un petit problème dans cette situation? Est-ce qu'on est reparti pour un feuilleton autour de Kylian Mbappé, Jérôme?
Des feuilletons avec les grands joueurs, il y en a tout le temps, hein, Jean-Louis. Et après, merci des infos d'Arthur, mais il y a des choses qui me laissent un peu perplexe. Déjà, le fait que il soit pas content de plusieurs choses, mais que les dirigeants, du moins des sources internes, disent oui, mais il est satisfait du projet. Non, il peut pas être satisfait du projet.
Sinon, il aurait levé l'option.
Déjà, et puis même, il y a pas de motif de satisfaction, Jean-Louis. Donc il faut arrêter d'essayer de défendre absolument le club sous prétexte que Kylian est content. Non, il doit pas être content comme la plupart des joueurs de tous les cas. cas ceux qui se sentent investis d'une certaine mission au Paris Saint-Germain, ils sont déçus aujourd'hui. Et de toute façon, ça se voit dans leurs attitudes, dans leur body language. C'est clair et net, c'est comme ça. Après, moi, j'ai envie de te dire, il y a deux choses qui peuvent être problématiques. Le fait que, en effet, il soit persuadé et qu'il lance ce message-là aux dirigeants en disant « Moi, je ne lèverai pas l'option. » Donc, les dirigeants, ils n'ont pas le choix. S'ils veulent retomber sur leurs pieds, il faut le vendre tout de suite. Voilà, parce qu'il ne lèvera pas l'option, il va partir libre sinon. Soit, la deuxième chose, c'est que Kylian, aujourd'hui, c'est une façon de remettre une pression sur les objectifs du club et ce qu'il voulait mettre en place pour les changements et qui n'a pas forcément eu lieu ou qui vont pas assez vite à son goût, et il a totalement raison là-dessus. Et que dans ces cas-là, c'est une pression particulière, il fera l'année prochaine et puis après il y aura le temps de voir les choses durant l'année. Rappelle-toi d'une chose, et là je donne la parole à Manu et à Jean-Michel, il faut faire attention avec lui, parce que il y a 2 ans, quand il a prolongé, si on avait parlé à cette période-là, et ça avait été le cas, il voulait partir. Mmh, et il l'avait exactement. Même annoncé au mois de juillet, au mois d'août. Et à l'arrivée, il est resté, il a prolongé, et puis voilà. Donc, piano, quoi. Il faut faire attention. On sait pas l'année prochaine le recrutement, comment le club repartira sur d'autres objectifs, avec une façon de jouer peut-être différente, avec un chef d'orchestre différent. Et peut-être que là, l'ambiance dans le vestiaire va changer, que ça va le satisfaire, et que peut-être il ira jusqu'à la durée. Parce que moi, il y a une chose, et ça, il a jamais triché là-dessus, et je l'ai toujours défendu, et je le défendrai toujours. C'est que il y a le côté financier, ok, parce que c'est un grand joueur et tout, pas de problème, mais il y a aussi le fait qu'il soit attaché à ce club, et ça c'est vraiment la réalité, quoi.
Manu, qu'est-ce que tu penses de ce que dit Jérôme, t'es d'accord?
Ouais, enfin moi j'attends toujours de voir en fait c'est quoi le vrai projet du Paris Saint-Germain, hormis justement de créer davantage de boutiques à travers le monde. Donc je veux bien qu'on essaye d'amener des garanties à Kylian Mbappé pour qu'il reste et éventuellement lever cette dernière option. Et puis encore une fois, la date butoir, moi ça me fait un peu rigoler, parce que à tout moment on peut le repousser, et puis à tout moment il peut y avoir une surprise aussi. Donc ce qui est écrit sur un contrat, ça peut très bien être mis en question rapidement. Donc c'est moi en fait
y a... ça oui, en fait la question c'est, est-ce que avoir le meilleur joueur, la tête d'affiche du projet à un an de la fin de son contrat, est-ce que ça peut poser un problème quelque part?
Bien sûr que ça pose un problème quelque part, parce que si tu laisses partir Messi et Neymar, je veux dire, et laisser justement et construire, c'était pas le projet qu'on m'a vendu l'année dernière, construire justement le futur du Paris Saint-Germain autour de Kylian Mbappé. Donc moi, je pense que Kylian Mbappé aujourd'hui, il attend des signaux forts sur le mercato qui va arriver. Là, c'est les semaines qui vont arriver, ils vont être capitales justement pour essayer de convaincre Kylian Mbappé. Rappelez-vous ces déclarations l'année dernière, c'était fin août, où il avait dit après un match, de toute manière, on va faire le maximum en Champions League. D'un air de dire qu'il avait déjà tiré le constat d'un échec. Il avait anticipé justement l'échec de son équipe en phase de Champions League. Donc quelque part, je me dis. Quand je vois les 8 prêts qui doivent revenir au Paris Saint-Germain, quand je vois aujourd'hui toutes les incertitudes concernant l'entraîneur, concernant les joueurs qui vont rester, ceux qui vont partir, ceux qui vont éventuellement arriver, je suis Kylian Mbappé, moi, les 4-5 semaines qui vont arriver vont être déterminantes si oui, le projet m'intéresse et si oui, je veux continuer à être au cœur de ce projet.
Et donc ça veut dire quand même que dans un an, tu peux te retrouver sans Messi, sans Neymar, voilà, et sans Kylian exactement. Mbappé s'il n'a pas été convaincu, capitaine. Oui.
Tremble carcasse, tremble, parce que je pense que du côté du Paris Saint-Germain, tout va bien. Kylian est pas content, mais il est satisfait. Je sais pas lequel il faut comprendre, hein, parce que il est pas content, mais il est satisfait. Bon, c'est la communication bizarroïde. Et puis il y a aussi, et vous l'avez d'ores et déjà évoqué, d'abord cette option sur l'année supplémentaire. Il peut très bien la lever l'année prochaine, à cette époque de l'année. On sait jamais.
Non, c'est jusqu'au 31 juillet.
C'est juillet, exactement.
Là, il a jusqu'au 31 juillet pour lever cette option.
Ah, il a jusqu'au 31 juillet,
oui.
Là.
Oui, oui. Mais en revanche, entre le 31 après, juillet oui. et l'année d'après, oui. il peut négocier un nouveau contrat.
C'est
en
vrai, bien sûr. Oui, enfin,
donc, ça veut plus des écritures.
Tant qu'il est au Paris Saint-Germain, pour l'instant, il n'est pas ailleurs. Mais imaginez, ça c'est une lapalissade, mais imaginez quand même que dans le même temps, ou à un an d'intervalle, il y ait le départ de Neymar, donc le retour sur investissement du transfert de Neymar, même s'il aura joué pendant X années,
6 années.
Enfin, il aura pris aussi son salaire, il y a le salaire à rester, donc entre l'investissement sur Kylian Mbappé, qui aura joué et marqué beaucoup de buts durant X années également, à la fin de la saison prochaine, ils peuvent s'asseoir peut-être sur 400 millions d'euros, non ? Qu'ils auront dépensé il y a 4 ans, exactement, avec un retour sur investissement égal à zéro.
Ouais.
Et peut-être même que pour faire partir, pour souhaiter le départ de Neymar, il n'est pas exclu qu'il participe un tout petit peu à son contrat ou à son salaire,
oui,
à là son, où il sera.
Oui, ou pré-éventuel,
donc,
oui.
Donc aujourd'hui, la situation du Paris Saint-Germain, elle est très très compliquée. Mmh. Vous avez aussi parlé.
Bah alors attends, Jean-Michel, dans ces cas-là, Jean-Michel, il ne faut pas envisager la possibilité de le vendre cet été.
Non, parce que
avec ce que tu dis sur la balance déficitaire, etc.
Non, mais pour
se retrouver dans un an sans personne.
Non, mais pour répondre à Jean-Michel et même à vous, on voit les choses clairement. Ils ont beaucoup, beaucoup d'argent. Ils en font pas une histoire d'argent. Parce que s'ils en faisaient une histoire d'argent, cette chose-là, non, en effet, il y aurait un retour sur investissement. Ils se poseraient la question aujourd'hui de vendre. Mais c'est de l'argent. Attention, j'aime pas parler comme ça.
Je parlais pas de leur possibilité financière. Il y a quand même un gendarme financier qui chaque fois est sur le rable quand même.
Oui, mais ça tous change quoi ans, là? Si tu le perds, Kylian Mbappé, le gendarme financier, ça te change quoi? Si tu le perds pour zéro, Jean-Michel?
Ah ben j'imagine que peut-être que dans les actifs du club, ils ont peut-être mis dans les actifs, je n'en sais rien, peut-être que dans les actifs du club, ils ont mis un Kylian Mbappé avec un éventuel transfert. Qui te dit?
Ah oui, non, mais ça je ne peux pas le savoir, et peut-être que tu as raison, mais moi, je pars du principe.
En tout cas, la situation pour le Paris Saint-Germain est extrêmement compliquée.
Ils n'ont pas la main.
Et c'est pour ça, et le PSG n'a pas la main, mais encore une fois, et c'est problématique, dans la gestion de ce club, avec tous les problèmes
qu'on a. Ça t'étonne, toi, dans la gestion de ce club?
Non, mais ce qui m'étonne, c'est de.
Qui est responsable, encore une fois, de ça?
Mais Manu,
les fiascos à répétition, ça marche sur les nouveaux contrats actuels. Bah, excuse-moi, quand tu laisses Manu, ton meilleur joueur, de pouvoir diviser son avenir, ça, c'est problématique.
Manu, le club aurait la main. Manu, le club aurait la main s'il s'était comporté normalement et s'il avait fait des progrès au cours des dernières années.
Mais attends, Jean-Michel, pourquoi Jérôme, tu me dis non à... plan, il est sur un an. Mbappé, il a un contrat pendant un an.
Tous les deux, on va voir la même
Macarra qu'il soit convaincu du nouveau projet.
Ça fait 6 ans qu'il est là.
Mais ça, on l'oublie sur un peu. Jérôme, c'est pas... Quelle est la perspective pour l'avenir qui vient?
Mais quand t'as un tel joueur, et c'est bon pour n'importe quel autre club, les grands clubs européens aussi. Quand t'as un joueur, regarde le cas. Alors c'est pas ils sont pas sur la même planète, je pense, mais c'est un grand joueur. Le cas de Bernardo Silva, on en a parlé. Ça fait 7 ans, il veut partir.
Oui.
Il part pas parce que le club.
Non, mais donc attends, Jérôme, là tu vas construire l'équipe du PSG autour de Kylian Mbappé. Il ne reste qu'un an de contrat.
Tu l'as construit, encore une fois. Je pense que l'équipe avec Kylian Mbappé, tu l'as construit depuis 4 ans plutôt que depuis un an et sa prolongation de contrat. Vous êtes d'accord avec ça? Après, il y a.
Je sais pas,
y a,
moi.
Y a, non. Là, tu l'as détruit, tu l'as pas construit.
De 2 ans plus.
Il a prolongé, mais.
Le club n'est pas en progrès quand même.
S'il n'est pas allé au Real Madrid, Jérôme, c'est parce qu'il a peut-être reçu des garanties sur le plan sportif de construire un projet autour de lui.
On est d'accord.
Aujourd'hui, c'est un fiasco.
On est d'accord. Mais on est d'accord.
Mais la question de savoir aujourd'hui qui est dans le pétrin, si c'est Kylian Mbappé. Moi, je suis à la place de Kylian Mbappé, je suis dans du velours.
Mais moi, je suis d'accord avec toi, Manu, mais pour répondre à Jean-Louis, c'est que il y avait un projet il y a 6 ans avec lui. Après, ça a évolué parce qu'il a pris une place plus importante quand il est devenu champion du monde, d'accord. Donc, c'est un projet à 4 ans, 5 ans avec lui. Il a prolongé l'année dernière. Là, t'es reparti sur un nouveau cycle en lui amenant des garanties, comme tu dis, sportives en disant on va changer la politique et on part sur un cycle de 2 voire 3 ans.
Qu'avant.
C'est ça. Sur la première année, le problème et ça, c'est le club, c'est de la faute du club, des dirigeants, de ce qu'ils ont mis en place. Là, le club n'a pas avancé, au contraire, il a même reculé. Donc, ils ont encore perdu un an. Mais tout ça pour dire qu'il leur reste un an pour donner des garanties différentes au meilleur joueur du monde.
Mais
il faut aussi préparer le fait que Kylian Mbappé, dans un club qu'il est là depuis 6-7 ans, il a le droit aussi d'aller voir ailleurs.
Et
même si le projet est bien.
Je parle des dirigeants parisiens qui n'ont aucune vision et aucun cap de fixer.
On y vient, Jérôme.
La question que le PSG doit se poser, est-ce que Kylian Mbappé veut rester, tout simplement?
Aujourd'hui, il veut rester. Moi, je
pense qu'il veut rester.
Moi, je pars
du principe. Après ce qui s'est passé,
non, Jérôme,
après les promesses qu'on lui a faites.
Mais la réponse est non. Sinon, il aurait levé l'option. Sinon, il aurait négocié un nouveau contrat. Sinon, il aurait signé 4 ans. Ils auraient signé un contrat là.
C'est logique.
Non, mais parce que là, on part.
Et tu me dis, c'est son club de cœur. Il n'aurait pas hésité un seul instant s'il avait des garanties.
Les gars, moi, je suis personne pour parler de son contrat. Personne peut se mettre à sa place. Là, on parle de contrats incroyables au niveau financier. Il y a des garanties amenées par les Qataris quand ils lui ont donné autant d'argent. Donc, je pars du principe que les deux ans, il va les faire.
On revient à l'argent, on n'en revient pas au sportif.
Mais
les garanties que veut Kylian, c'est au niveau financier, qu'il reste au PSG.
Non, ils lui ont donné. Ils ont essayé de lui amener.
S'il veut gagner des titres, je suis pas certain que ce soit la bonne solution.
Ils ont essayé de lui amener des garanties en disant le vestiaire va changer, l'institution va changer, va reprendre le dessus.
Ce sont des paroles.
Oui, c'est vrai, et ça se vérifie pas. Ça
c'est
juste vérifié.
C'est philharmonique de Vienne, non. Ça.
C'est pas du pipeau. Dans les actes, ils ont changé les hommes à la tête du sportif l'année dernière. Donc ils ont reconstruit quelque chose de différent. Ils ont détruit pour reconstruire. Aujourd'hui, le problème, c'est que depuis un an, ça va pas assez vite.
Si tu pars du principe qu'ils ont des trucs pour reconstruire, moi je vais demander à un architecte de reconstruire ma maison et de faire des étages n'importe comment, une tour là-bas.
Je veux pas le même architecte.
On va continuer le débat dans une seconde.
Manu et Jean-Michel, reconnaissez quand même qu'ils ont changé les hommes à la tête du sportif.
Jérôme, dans les hommes qui ont changé. Dans les hommes qui ont changé, Jérôme.
Pardon, Jean-Michel, je te redonne la parole dans une seconde. Parce que quand on essaie de lancer la pub et que vous continuez de rajouter des mots. Personne n'écoute ce que vous dites. Donc c'est dommage, c'est gâché. Vous allez le refaire dans une seconde tranquillement et on donnera la parole à Damien au 32-16. Mbappé sans flamme, libre dans un an. Est-ce que ça pose un problème quelque part? À tout de suite.
RMC 18h20, Roten sans flamme.
Jean-Louis
Tour,
Jérôme Roten.
18h18 sur RMC, toujours dans Roten sans flamme. On continue nos débats dans Roten sans flamme avec Jean-Louis Tour, avec Manu Petit et avec Jean-Michel Larquet. C'est chaud sur le plateau, et oui. Et c'est ce qu'on aime, Jean-Louis.
Exactement. Doit-on parler de fraude sur le projet Ineos? Les dirigeants sont là depuis 3 ans.
On va encore se chauffer. Hein.
Est-ce que ça va vraiment partir à un moment ou est-ce que pour l'instant il n'y a rien? On fait entrer les accusés tout à l'heure à 18h30. On est sur le PSG. Mbappé libre en 2024, donc il est à un an de la fin de son contrat. Est-ce que ça pose un problème dans la politique sportive du club? Damien nous rejoint, Jérôme, au 32-16.
Salut Damien.
Salut Jérôme, salut Jean-Louis.
Bienvenue Damien.
Jean-Michel et Manu.
Salut Damien. Bon, qu'est-ce que tu en penses?
Pour commencer d'abord, messieurs, je vous avais annoncé il y a quelques semaines qu'on était en finale de Coupe Aubois du District Ouest de football avec mon club.
Oui.
Et forcément, on a gagné. Et
félicitations.
Féliciter toute l'étoile sportive hors moi du vie pour cette belle victoire dans cette coupe.
Bravo,
les gars.
Bravo.
Merci.
Ça devait pas être bien dur à gagner celle-là. Vas-y. Non, je plaisante.
Je plaisante. Aux adversaires, les pauvres.
Allez, vous avez affronté qui? Des charpentiers?
Des menuisiers, ouais.
Ah, d'accord. Bon, justement, il change les menuisiers à Paris.
Te fais pas plus méprisanter, okay. Jérôme. Okay. Tu le penses même pas.
Exactement. Qu'est-ce que tu penses de Kylian?
Kylian, forcément, c'est un problème pour le PSG parce que on est reparti sur est-ce qu'il prolongera, est-ce qu'il prolongera pas. Ça va créer un battage médiatique autour de cette histoire. Ça commence déjà. Mais pour moi, il faut le prendre comme une opportunité. De nouveau, comme tu l'as dit, le projet il n'est pas bien parti cette année. Que forcément, Kylian, il a des doutes par rapport à ce qui lui a été proposé l'année dernière. Et sinon, il aurait déjà prolongé. Il aurait déjà levé cette option. Or, là, il ne l'a pas fait. Donc, ça montre qu'il n'est pas en total accord avec ce qui se passe au club. Donc, il faut vraiment qu'il travaille bien. Il faut prendre ça comme une opportunité de vraiment faire un bon mercato, de construire vraiment l'équipe autour de lui et non pas une équipe bancale et déséquilibrée comme on a pu le voir cette année. Je pense que Kylian, il n'a pas pris de plaisir en jouant cette année au PSG. Que s'il n'y avait pas Kylian cette année au PSG, on n'aurait pas fait la saison qu'on a fait.
Ah non, ça, c'est sûr.
Très clairement. Et il a envie de gagner avec des champions, il a envie de gagner des titres avec Paris. Et je pense que lui-même, il doit être déçu, parce qu'on le voit dans son attitude. Contre Auxerre, il marque 2 buts, on voit qu'il est largement au-dessus, puis d'un coup, c'est plus le même joueur. Il joue pour ses stats actuellement. Mmh. Et on sent pas qu'il prend du plaisir sur le terrain, et nous, on prend pas de plaisir en les regardant jouer. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est tout ce que les supporters du PSG ils ont envie, c'est tout ce que le club a envie. Et donc moi, je dis que Kylian, il a raison de mettre cette pression sur le club, même si ça va être un problème à gérer. Effectivement, c'est un très gros problème à gérer pour le PSG, que ce soit médiatiquement, que ce soit sportivement et que ce soit administrativement.
Oui, mais c'est un bon problème à gérer. Parce que à l'arrivée, le PSG doit être satisfait quand même du fait de l'avoir gardé, réussi à le garder, alors que c'était quasiment une cause perdue quelques mois avant. Donc ça, c'est la réalité, elle est là. Après, comme tu l'as dit, l'équipe autour de lui, oui, bah de toute façon, une équipe, elle se forme toujours autour des grands joueurs. Donc lui est un grand joueur, donc automatiquement, ils vont essayer de faire en sorte qu'il se sente le mieux possible dans cette équipe.
Comment ils vont faire ça, Jérôme ?
Je sais pas.
En tirant Messi, déjà, tu enlèves.
Et les 8 joueurs qui reviennent en prêt, tu fais quoi avec ?
Ouais, c'est compliqué, mais t'as raison.
Jérôme,
Jean-Michel.
Quand même, je te trouve très optimiste.
Mais oui.
Le problème, il est facile à régler. Moi, quand j'avais l'énoncé du problème, il était facile à régler si j'avais la bonne solution. D'accord ? Aujourd'hui, non seulement l'énoncé du problème, il est très compliqué pour le Paris Saint-Germain, et ils ont prouvé qu'ils étaient incapables de le régler. Jusqu'à présent, c'était incapable. Et quand tu as alors, je sais que tu ne portais pas le précédent Leonardo dans ton cœur.
Bah, autant les premières années, oui, ça c'est sûr, je le portais dans mon cœur parce que je trouve.
Quand tu as un directeur sportif qui arrive en bombant le torse et en disant, vous allez voir, tout va changer, on l'a dit ça, et au mois de juillet dernier, ça va changer.
Oui,
ça va changer. Et que le seul discours que j'ai retenu, moi, de Campos cette année, c'est quand même terrible quand tu es joueur du Paris Saint-Germain, c'est Campos qui te dit, on a manqué le mercato d'été, et quelques mois après, il te dit, on a manqué le mercato d'hiver. Donc, si tu veux, quand tu as un directeur sportif qui a une tête de vainqueur comme ça, tu te dis que ça risque d'être compliqué quand même.
Oui, non, mais c'est pas. Franchement, Jean-Michel.
Honnêtement, c'est vrai ou pas vrai ?
Non, mais.
Un directeur sportif.
Non, mais tu as raison.
On a été nul pour le mercato d'été.
Oui, et nul au mercato d'hiver. Et parce qu'il n'avait pas d'argent. Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais moi, encore une fois, je ne dis pas que c'est facile de trouver un projet cohérent au PSG.
Le problème était facile à régler.
Non, le problème, il est facile à régler pour Mbappé.
Pour Mbappé.
Oui. Oui, pour Mbappé, il est facile à régler.
Donc, c'est inquiétant pour le PSG.
Mais en fait, c'est inquiétant aujourd'hui. Et je te dis pas que moi, je suis optimiste sur les prochains mois, les prochaines semaines du PSG, parce que j'échange souvent avec eux. Et un jour ils te disent blanc, un autre jour ils te disent noir. Après, on revient à un projet où il faut mettre un peu plus de joueurs français. À l'arrivée, j'attends de voir les joueurs français qui vont arriver. Après, comme tu l'as dit, Manu, t'as les prêts qui vont revenir. Il va falloir les faire partir. Alors, encore une fois, l'aspect financier, c'est pas un problème pour les Qataris. Donc, s'ils décident de faire des chèques, de résilier les contrats, tant mieux pour eux. Bon, ils auront perdu un tas d'oseilles, mais tant mieux pour eux. Mais je suis pas sûr que.
Tu penses que les joueurs qui vont venir, ça va être gratuit ?
C'est ça. Le problème, c'est que
à la fois au niveau des transferts, mais également sur le
en fait, ce qui me fait peur, c'est que tous les noms, et on a fait des débats là-dessus sur Bernardo Silva, sur d'autres, tous les noms que t'entends, c'est toujours la même rengaine au PSG. Mmh. C'est des grands noms qui ont marqué les clubs étrangers, et sous prétexte que c'est les meilleurs dans leur club ou ils font partie des meilleurs joueurs au monde, donc ils intéressent le PSG. Pour moi, tu construis pas un club comme ça, tu construis pas un collectif comme ça.
Je suis sûr que directeur sportif, tu serais meilleur que Campos, Jérôme.
Mais je suis d'accord avec toi.
Et tout ce qui
c'est très facile, ça. On peut tous le faire, ça.
Oui, ça c'est très compliqué.
Non, non, mais c'est vrai. Et après, il faut avoir des bonnes idées, une bonne vision des choses pour analyser la situation PSG. Et je pense que ça, et c'est pour ça que j'ai des doutes aujourd'hui. Je pense que l'analyse globale, le mal-être du PSG, eh ben ils en ont pas conscience.
Moi, j'ai une question à te poser, Jérôme.
Oui.
En tant qu'ancien du PSG, par rapport à tout ce que tu vois depuis des années, imaginons. Par rapport à la situation contractuelle de Kylian Mbappé, que dans un an, il ne soit plus au PSG.
Ouais. Vas-y.
Qu'est-ce qui se passe ?
Manu, enlève ton casque et vas-y, continue.
Imaginons que Kylian, dans un an, il s'en aille.
Ouais.
C'est quoi le projet du Paris Saint-Germain ?
C'est dramatique.
Eh ben, c'est un risque majeur à l'heure actuelle.
C'est vrai, Manu.
Pour ça que je te dis, les 6 prochaines semaines, ils vont jouer gros le Paris Saint-Germain.
C'est pour ça que je te dis juste, et on va finir là-dessus, je te dis juste que
entouré de joueurs importants pour que Kylian brille, ça me paraît logique. Dans tous les clubs,
c'est surtout une équipe cohérente que je vois.
Mais non, mais ouais, dans tous les clubs où on est passé, il y avait des grands joueurs et automatiquement ces grands joueurs-là sont indispensables dans une équipe.
Il y avait
mais
des bons soldats aussi. Il y avait des bons soldats, Jérôme.
Non, mais l'essentiel, je vais te dire, c'est pas les têtes d'affiche, c'est pas les grands joueurs, c'est les soldats. C'est les soldats. Ouais. Comment ils se transcendent entre eux, comment
après,
est-ce qu'ils dégagent.
Tête d'affiche, ça peut être problématique aussi.
Mais au PSG avec les moyens, Jean-Louis, il y en aura toujours. Il y en aura, mais si, il y en aura toujours parce
j'attends
que ils ont
aussi,
plus de moyens
de
qu'ailleurs. Mais il faut pas être le petit pigeon à surpayer certains joueurs et surtout à faire juste un un recrutement de stars.
Qui vont profiter
parce que
de la situation,
quand tu me parles de
faire cracher le PSG,
quand tu me parles d'Osimhen, tu me parles de Bernardo Silva, tu me parles d'entraîneurs Nagelsmann et tout ça, je trouve que quand ils t'amènent ça sur en disant c'est des priorités, là ils ont tout faux.
Allez,
c'est qu'ils ont rien compris.
On arrête là, on remercie Damien.
RMC, 18h20, Roten sans flamme.
Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
18h31 sur RMC, toujours dans Roten sans flamme. La deuxième demi-heure de Roten sans flamme du soir avec Manu Petit, avec Jean-Michel Larquet, avec Jean-Louis Tour. Dans 10 minutes, ratez pas le moment de Julien Cazard. Il est en grande, grande forme et là, je crois qu'il a eu une discussion.
Entre Neymar, Neymar c'était hier, entre Mbappé et Nasser Al-Khelaïfi.
Ah ouais.
Donc soyez là,
18h45. Coup, hein. Il bosse.
Ouais, il est solide. Ouais. Peut-être un peu plus solide que le projet Ineos.
Bon. RMC, Roten sans flamme.
Silence dans la salle. Qui sont ces hommes?
Ah, ouh, ah non, mais donc le jour
où les matchs,
le jour.
Oh, j'en ai trop.
Faites entrer l'accusé.
Qu'est-ce qu'il y a? Je suis un peu orienté dans ma façon de présenter les
choses. Voilà.
Moi, je pose le débat. Le dossier du soir.
C'est vraiment un sale type.
D'ailleurs, c'est pas moi qui l'ai amené, c'est Dante, le capitaine niçois, qui amène cette pièce à conviction après le nul de Nice contre Toulouse.
Faut qu'on fasse une équipe assez forte. Au plus vite possible pour bien démarrer la saison. Cette saison, on le sait très bien, le dernier jour du mercato, il y a 6-7 joueurs qui partent, il y a 6 qui arrivent. C'est compliqué. Il faut simplement pas faire les mêmes erreurs.
Alors, ne pas faire les mêmes erreurs, faire un mercato ambitieux, c'est une rengaine qu'on entend régulièrement depuis l'arrivée d'Ineos, les Anglais qui bouclent leur troisième saison à la tête de l'OGC Nice. Et la progression ne saute pas aux yeux. Hein. Alors le projet Ineos est accusé d'être une fraude, une arnaque, utilisez le mot que vous voulez. L'accusation est menée par le procureur Jean-Michel Larquet. Bonsoir monsieur le procureur.
Bonsoir messieurs.
Et comme dans chacun de nos débats, de nos faites entrer l'accusé, dans Roten sans flamme, il y a les deux parties qui sont représentées, l'avocat des dirigeants, c'est maître Jérôme Roten. Bonsoir maître.
Hello.
Vous êtes tendu j'ai l'impression.
Non,
vous n'avez pas l'air confiant. Le juge qui va nous trancher l'affaire, c'est le juge... Manu Petit, bonsoir.
Bonsoir, messieurs.
Alors, allons-y, monsieur le procureur Larquet.
Hello, guys.
Qu'est-ce que vous reprochez aux dirigeants niçois?
Il y a une formule qui est très simple, qui dit que les gens ne sont pas ce qu'ils disent, ils sont ce qu'ils font. Et c'est vrai qu'Ineos nous a bassinés en début de règne, là, lorsqu'ils sont arrivés, en nous disant « vous allez voir ce que vous allez voir ». Nous sommes des winners et l'OGC Nice va être une des bonnes et grandes surprises sur la scène française et peut-être même sur la scène internationale. Depuis, il y a eu valse des entraîneurs, valse des directeurs sportifs, valse des directeurs administratifs. Et je suis très étonné. Je suis très étonné de ça parce que Dante l'a parfaitement résumé. Quand on a des ambitions, je ne sais pas si c'est le cas dans les grands clubs, mais je regardais, par exemple, en début de saison, les quatre joueurs offensifs s'appelaient Laborde, Guiri, Stens, et celui qui est parti à Nantes.
Delors.
Et Delors. Sur les quatre joueurs offensifs...
Il vient de bosser.
Il y en a trois qui sont partis en tout début de saison. Évidemment, impossible, comme le dit Dante, d'avoir une quelconque ambition, d'avoir une ligne directrice. Et ça m'étonne d'autant plus, de la part d'Ineos, que dans les autres domaines, ils sont, quand ils le veulent, quand ils en ont la volonté, ils sont véritablement pointus. Que ce soit dans le vélo, que ce soit dans la voile, ce sont des gens qui... lorsqu'ils investissent, ne font pas les choses à moitié. Mmh. Et là, on les sent toujours un petit peu sur la retenue. On les sent d'autant plus que sur la retenue qu'ils courent plusieurs lièvres à la fois. Et nous avons donc l'OGC Nice, avec parfois des recrutements quelque peu folkloriques. Notamment celui du numéro 1 de Schmeichel, par exemple.
Qui a fait une bonne deuxième partie de saison, quand même.
Qui a fait une bonne partie de
par rapport à sa première saison.
Et oui, qui était vraiment très mauvaise, donc ouais. Il était en amélioration par rapport à du très mauvais, il a été moyen. Et pour les Niçois, aujourd'hui, quand on est en même temps intéressé un petit peu par l'OGC Nice et beaucoup par Manchester United, on comprend très bien que l'on ne concentre pas tous ses efforts sur l'OGC Nice. Enfin, on le comprend bien. Eux nous disent qu'ils font tout pour l'OGC Nice, mais en fait, ils ne le font pas parce qu'ils ont d'autres vues, d'autres challenges à relever. Et donc, j'attends avec impatience le projet Ineos. En tout cas, sur le factuel, ils ont échoué. Sur le factuel, ils ont raconté des bobards. Sur le factuel, ils n'ont pas progressé.
Et sur le factuel, après, ils ont investi aussi un peu d'argent quand même.
Alors c'est encore pire s'ils investissent de l'argent et qu'ils n'ont pas progressé.
Écoute, tu peux faire des erreurs, je vais rajouter
qu'ils sont incompétents. Ça fait pas terrible pour eux. Donc maintenant, laissons l'avocat qui a des informations canon et qui évidemment croit ce qui ne s'est croit aujourd'hui ce qui ne s'est pas passé hier.
Il a des infos et on est là dans un souci de neutralité pour garantir le même temps de parole. Donc allez-y, maître Roten, pour défendre les dirigeants de Nice.
Moi aujourd'hui, ça me fait rire de parler de, bien sûr qu'il y a du négatif dans le fonctionnement d'Ineos depuis 3 ans, depuis qu'ils sont à la tête de l'OGC Nice, parce que Ineos, ils sont là pour investir, ils ont fait confiance à des personnes qui étaient pas compétentes pour ce projet-là. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. Il y a juste à voir l'effectif de Nice, le recrutement de certains joueurs, les salaires donnés à certains qui sont difficiles aujourd'hui à accepter pour les nouveaux qui viennent d'arriver. Et les nouveaux, je parle de Flo Ghisolfi, directeur sportif, qui a excellé à Lens et où Ineos n'a pas hésité à aller le chercher, à le payer et à bien le payer aujourd'hui pour qu'il l'amène un peu plus de compétences dans ce rôle-là. La personne qui était là avant, c'était Monsieur Fournier. Moi, j'ai rien contre Monsieur Fournier, mais je pense qu'il a rien à faire dans le football, dans un club très ambitieux. Et la preuve, ça se voit avec le recrutement. C'est à rien y comprendre. Des joueurs prêtés, des joueurs qui repartent dans leur club, à l'image de Pépé, par exemple. Des joueurs qui ont été recrutés il y a quelques mois, quelques années, pareil, qui sont déjà repartis. Des attaquants, alors qu'on misait beaucoup, à l'image de Delors, par exemple. Hein, et puis, il y en a d'autres. Guiri. C'est la même chose, il y en a d'autres aussi, donc je vais pas toutes les citer, mais je trouve qu'il y a eu beaucoup d'erreurs dans ce projet sportif. Après, n'empêche que derrière Ineos, ils ont montré une chose, c'est que déjà ils ont pas hésité à mettre la main à la poche quand il fallait recruter un joueur, à l'image du mercato d'hiver, quand ils vont recruter Mofi et ils le prennent à l'Olympique de Marseille. Alors je veux bien que le fait que ça soit Flo Ghisolfi qui le fasse, ça a joué dans le choix de Mofi, mais derrière il fallait avoir les reins solides aussi financièrement parce qu'il y avait un vrai concurrent en l'occurrence l'Olympique de Marseille. Ils ont pas hésité, ils ont pris Ndiaye Gimene, le milieu terrain pareil qui était une priorité pour le RC Lens quand Flo Ghisolfi était. Il est venu parce que Ghisolfi a réussi à lui dire de venir à Nice et à lui vendre le projet, et surtout Ineos l'a suivi. Donc là-dessus, c'est quand même des garanties importantes dans les prochains mois. Après, derrière, qu'est-ce qui se passe? Moi, je vois, c'est juste mes yeux, j'ai pas besoin d'avoir des informations. Ils ont pris donc Ghisolfi, ils ont pris Jean-Claude Blanc au Paris Saint-Germain, qu'ils ont arraché au Paris Saint-Germain. Jean-Claude Blanc est pas est quand même quelqu'un de très compétent. Partout où il est passé, ça a bien fonctionné. Alors, je dis pas qu'il va fonctionner qu'avec l'OGC Nice, parce que c'est sur le groupe Ineos. Et peut-être qu'il fera partie de la reprise aussi à Manchester United. Mais n'empêche que si le groupe Ineos rachète Manchester United, c'est certainement avec tous les sports qu'a mis en place en avant Jean-Michel tout à l'heure, entre le cyclisme, la voile et j'en passe, ça va être le groupe le plus important sportivement, avec des garanties de réussite, avec cet état d'esprit de compétiteur qu'il faut dans le football pour y arriver. Franchement, je préfère faire confiance à Ineos dans ce projet-là qu'à des fonds d'investissement américains qui connaissent rien à la culture du football.
On n'a pas demandé de choisir entre la peste et le choléra.
Du football en Europe. Donc moi, je fais juste confiance et je vois qu'ils ont détruit un projet qui est parti en vrille depuis 3 ans et qu'ils sont en train de le reconstruire avec Gisolfi, avec Jean-Claude Blanc et avec des joueurs différents. Donc laissez la chance à ce produit-là de mettre en place jusqu'au mois de juin, juillet, août, un effectif bien plus conséquent, armé à lutter pour les 4 premières places de Ligue 1. Okay. Et vous verrez que vous aurez des bonnes surprises.
Très bien. Monsieur le juge, vous tranchez pour qui?
Je tranche pour Jean-Michel Larquet. C'est un procès qu'on avait fait déjà il y a quelques semaines et à cette époque-là, je n'étais pas le juge, j'étais le procureur. Parce que moi, sincèrement, je me range complètement derrière les propos de Dante, c'était des propos qu'il avait tenus qui faisait référence en début de saison dernière, mais c'est tout récent.
Il nous l'avait dit aussi dans Rotten Sans Flamme.
Exactement. Moi, je me rappelle simplement des grandes communications d'Ineos à leur arrivée avec vous allez voir dans les 3-4 années à venir, nous allons rivaliser avec les meilleurs du championnat, on jouera la Championship chaque année. Bon, c'est un flop total et surtout que je fais référence également à ce que nous a dit le président de l'OGC Nice, qui est monsieur Rivière, qui nous avait dans la première partie de saison l'année dernière en disant tout le monde va voir ce que sera réellement le projet Ineos en février. Février, on est quoi? On est en mai, on est quasiment à la fin du championnat, il se passe rien. Je sais pas qui va être l'entraîneur. Je sais pas si Gisolfi, qui a fait un travail remarquable, et là je te rejoins Jérôme, aura les cartes blanches justement pour faire ce qu'il a pu faire à Lens. J'en doute énormément. J'en doute énormément dans la mesure où Jean-Claude Blanc, à mon avis, il est plus focalisé sur le rachat de Manchester United que sur le GC Nice à l'heure actuelle.
Mais ça, c'est pas un problème aussi, hein?
Bien sûr que c'est un problème.
Mais non, c'est pas un problème.
Dans ces cas-là, donc on se plaint de Khalafi qui a différentes casquettes, et là, tu es en train de me dire que lui, avec Manchester United, il va pouvoir aussi se concentrer sur le GC Nice.
Avec des moyens bien inférieurs, Lens a réussi à être en Ligue des Champions.
J'ai peur que le GC Nice devienne un club satellite, au final, et qu'au final, tout ce qu'on nous a vendu comme du rêve, en fait, je suis complètement d'accord avec Captain.
Qui est factuel aujourd'hui. Un satellite de Manchester United,
c'est un flop. Je suis désolé, c'est un flop.
Victoire de Jean-Michel dans ce fait d'entrer l'accusé dans une seconde. Tout le monde va se détendre avec Julien Cazard et son Cazard enchaîné. Jérôme, c'est pas grave. Allez, à tout de suite.
RMC, 18h20, Roten sans flamme.
Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
18h47 sur RMC, toujours dans Roten sans flamme. Les 10 dernières minutes de la première heure, bien sûr. Et on sera là après 19h jusqu'à 20h, comme tous les soirs, avec Jean-Louis Tour, avec Manu Petit, avec Jean-Michel Larquet. Ça va être le moment de Julien Cazard. Mais Jean-Louis, donne-nous le programme de la deuxième heure.
Oui, on fait dans sur deux jours les 30 ans d'OM Milan. Êtes-vous nostalgique des présidents à la tapis? 32-16 pour débattre. Mais tout de suite, Julien Cazard.
RMC, Roten sans flamme.
Le Cazard enchaîné.
J'étais de bonne humeur là, l'autre il me saoule avec cette histoire là. C'est quoi ces débats?
Oui, d'ailleurs, en préambule, bonsoir à toutes et à tous, on est le 24 mai, on s'en fout. En préambule de journal, je voudrais revenir sur cette histoire là, de débat là, Jean-Louis là.
Oui.
De débat, c'est quoi là? Êtes-vous nostalgique des présidents à la tapis?
Bah oui.
Avec Manu Petit, tu fais ça toi? Non mais allons-y. Ben alors c'est quoi le prochain débat? Êtes-vous nostalgique des Boulogne Boys avec Mickaël Madar, Rudy Haddad et Maxime Bartouche? Non mais j'en ai d'autres sinon. Clément Turpin doit-il arbitrer la finale de la Ligue des Champions avec Flo Germain, Eric Dimeco et Ben Gouze? Non mais allons-y. Alors, j'en ai un autre. Les vainqueurs de la Coupe de France doivent-ils fêter leur victoire en défilant sur un char à la Gay Pride avec Saïd Amoulik, Moussa Diarra et Zakaria Abouklal? Mais allons-y. Non mais les mecs, Manu, toi tu laisses faire, toi. Comment tu peux accepter de faire un débat pareil, Manu?
Ouais, je suis obligé de suivre. Hein.
Donc toi, on t'a dit quoi? Alors toi, t'es dans le camp des nostalgiques ou pas?
Sur certains points, oui.
Ouais.
Ça m'intéresse. Donc, ce que ces gens.
Tu vois, c'est pas attendu en fait.
C'est pas attendu parce que vous leur avez dit, vous avez fait plouf plouf. Mais Manu, toi, tu seras contre et Jean-Michel, tu seras pour et inversement.
Mais non, on a surtout rien dit à Manu.
Donc, voilà. Il vient de découvrir. Attendez. Mais dans quel cadre d'émission vous me faites ça? Je pense que là, les dés sont pipés. Hein. Manu, c'est rien que les dés. T'inquiète pas. En même temps, on avait déjà fait. Messi doit-il être aligné sur les 5 derniers matchs avec Jérôme Rotten? C'était déjà une blague. Et tu fais, mais non, pas du tout! Pour des raisons éthiques! Je trouve ça scandaleux!
Bien sûr, scandaleux qu'il joue le dernier match au parc.
Et je pense qu'on devrait même décomptabiliser. Il devrait avoir 5 passes de suspension, normalement.
Pourquoi?
Sinon, il va battre le record. Tu sais, j'ai eu un mec du Parisien, là. Il paraît que t'as répondu au Parisien. Le Parisien, ils t'ont posé une question.
C'est à l'équipe.
Ah ouais, et ils ont. T'es sûr? Parce que dans le Parisien.
Je crois, L'équipe. Si. Mais non.
Parce que le mec dans l'article, il...
pas vu dans l'équipe aujourd'hui.
Ah oui, non, au Parisien, mais c'était la semaine dernière.
Oui, et ben dans le Parisien, ils disent, Jérôme, à la fin de l'interview, ils mettent Jérôme Roten qui a 17 passes décisives à une de Angel Di Maria qui en a 18.
Mais ce qui est pas vrai.
Ce qui est pas vrai.
C'est vrai que ce journal décline.
Mais le Parisien, c'est une catastrophe. Hein. Je sais pas s'ils m'écoutent, mais les mecs, il va falloir vous remettre en question. Hein. Il y en a marre des fake news.
Allez, ça me dit.
L'équipe est bien supérieure au Parisien, quand même.
Pardon.
L'équipe est bien supérieure.
Bien sûr, mais depuis que c'est plus le même groupe.
Attendons de voir l'article dans l'équipe quand même.
Ouais. Ils vont en donner combien dans l'équipe?
Si tu comptes les coups de pied arrêtés, 25.
Ils en ont 22.
Oh. 25.
Il y aurait une passe de Chabalinonda à 1 mètre.
Oui. Tu l'aurais décalé sur un coup franc indirect.
T'as décalé de 1 mètre et il a tiré.
Ah non, c'est pas les passes à Léo Messi, moi. Ça, c'est sûr que c'est des vraies passes décisives.
D'accord.
Vas-y, parle d'autre chose.
Nous, notre dossier. Mais bien, je voudrais, mais tu m'interromps.
Oui.
Il m'interrompt avant que je parle. C'est quand même très rare. Dans notre émission, nous aborderons l'affaire Vinicius et depuis les incidents à Valence, nous sentons bien que l'atmosphère dans le foot n'est plus joyeuse. Hein, problème d'homophobie, ceux du racisme refont surface. Et c'est la question de l'acceptation de la différence qui est en jeu. Et Manu, j'ai repensé à toi.
Vas-y.
Il y a 25 ans, l'équipe de France 98 gagnait la Coupe du Monde et lançait un message de tolérance. Tu te rappelles le message de tolérance de la France 98? Mais si, une équipe où la différence n'était pas un défaut, elle était composée de... Mais oui, Jean-Michel, les gens différents à l'époque. Manu Petit, un homme qui se balade à poil dans les couloirs de Clairefontaine en se lustrant la queue de cheval avec de la vaseline, c'est différent. Mais on l'acceptait. Du gars qui vivait avec une malformation au pied qui l'empêchait de cadrer 90% de ses frappes, il était atteint de cubisme plantaire, qu'on appelait le syndrome du pied carré. Eh bien, on l'acceptait. C'était la tolérance. Et que dire de Franck Leboeuf qui se prenait pour un acteur qui courait avec un entonnoir sur la tête en criant Hollywood maintenant. Et voilà. Mais on le tolérait. Évidemment, je parle pas d'Isel Charbonnier qui était champion du monde et qui venait à l'entraînement en sabot lors des mises au vert. Il voulait dormir sur un sac de paille. Et bien malgré toutes ces différences, on vous acceptait. Et ça, c'était beau. Voilà, vive le vivre ensemble. Alors heureusement, il y a un club où le vivre ensemble, c'est parfait. Hein, tout le monde s'aime, c'est le Paris Saint-Germain. Et nous reviendrons sur quelque chose qui met le feu au PSG. Tu as vu Jérôme?
Ah oui.
C'est Mbappé. Kylian Mbappé. Mmh. Kylian Mbappé, qui ne voudrait pas lever l'option d'un an. Ouais. Hein, on s'y attendait pas du tout à celle-là. C'est marrant. Hein. On était persuadé qu'il était parti pour 10 ans.
Il adore le
ici c'est Paris. Mon histoire s'écrit ici. C'est à l'encre sympathique. Les négociations ont été âpres et tendues entre le club et le joueur. Alors, à RMC, nous n'avons pas de micro chez Pfizer. Nous n'avons pas de micro chez McKinsey, mais nous avons des micros dans le bureau de Nasser à Doha.
Ah, bon, Kylian, il faut qu'on parle de l'avenir, de ton avenir et de Paris Saint-Germain.
Eh oui, pas de problème.
Alors, on fait comme t'as dit, on va pas renouveler les contrats de Lionel Messi.
Ah ben très bien, je peux plus libérer le nain Asperger, là.
Et on va réduire les salaires des Ramos.
Eh ben parfait, la vieille espingouine, là, qui retourne à l'EHPAD.
Et ensuite, on va vendre Virati au Real.
Nickel, moi là, le clos dépouille encore un peu, je lui faisais bouffer sa vodka Red Bull par le cul avec une paille.
Et on va vendre Neymar à Manchester United.
Encore mieux, le teubé de Copacabana qui aille faire des cloches piadas chez les Rose Beef, ça lui passera l'envie de faire des roulades.
Voilà, et comme on a fait 10 économies, j'ai calculé, ça fait 90 millions d'euros d'économie de salaire, hein.
Et t'as oublié Bernat, là. Il prend 4 bars par an pour cirer le banc. Alors tu me le renvoies bouffer du chorizo chez Samir à Malaga.
D'accord. Et pour Hakimi, c'est gros salaire aussi, hein.
Calme-toi, moi, Achraf. Ne me suis plaisante. Non, Hakimi, on garde, hein. Non. Alors donc, là, ça fait 90 plus 195 millions d'économie de salaire, qui s'ajoute à 1070, mais ça me fait 165 millions l'année. Ça devrait suffire pour rester.
Comment ça, c'est pour toi?
Ben oui, c'est pour moi.
Mais si tu prends tout le salaire, on fait comment pour acheter 10 autres joueurs?
Mais Simon, t'as pas besoin, t'as une ticket, t'as Zaïre Emery ou Sidi Garbi. Hein, puis moi, je peux t'avoir Cherki pour un bon prix, là, et roule ma poule. Ils auront qu'à balancer la balle devant, de toute façon, je cours plus vite que tout le monde. Et ça suffit pour gagner la Ligue 1.
Et mais si on passe pour 10 cons en Ligue des Champions?
Mais on passe toujours pour des cons, c'est pas grave. Mais de toute façon, moi, dans un an, je me tire au Real. Ah tiens, dernière chose, je me disais 95, c'est bizarre, là, comme chiffre, là. Il prend combien, le travelo frisé, là, qui a une tête de blédard?
Marquinhos?
Oui, c'est ça, lui, là.
Et c'est 5 millions, net.
Très bien, mais tu me le dégages, ça fera 100 pour moi. Petit compte là, c'est plus simple pour ma compta.
Ah, ben, d'accord.
Eh, en liquide, hein, je veux pas d'emmerde.
D'accord.
Ouais, en fait, c'est pas mal. C'est une bonne tactique. C'est que si j'ai bien calculé, on mise tout sur Mbappé. Chaque année, on rajoute 20 millions d'euros et on vire tous les mecs qui foutent le bordel. Tous les mecs. Ouais. On joue qu'avec lui. À mon avis, ça peut marcher. Hein. Ouais. Mais puisqu'il paraît qu'il faut tout miser sur Mbappé. Je voudrais finir sur le FC Nantes. Oui. Le FC Nantes au fond du trou.
Ah oui. Et comment ne pas se demander comment s'en sortir, et surtout pourquoi ne pas demander l'avis d'un ancien grand coach du club jaune et vert, au Panthéon du des Canaries, entre José Arribas et Reynald Denoëx. Je viens par sûr de Raymond Domenech.
Ceci est une analyse de Raymond Domenech.
Et non, là, j'ai vu les résultats de Nantes. Le regard du top 14 qui a remplacé Combora, il est au courant qu'il n'entraîne pas l'aviron bayonnais. C'était pour faire aussi, ils auraient carrément pu me prendre. Hein. Moi, je pouvais faire largement pire même. En plus, moi, pour le même prix, je te fais une dinguerie en conf de presse. Je déclare que je deviens transgenre après la défaite et je demande la main de Valdemar Quitta. Bon, je vous laisse. Là, il y a le comptoir d'Estelle qui débute avec Paris Collégas et Fred Hermel qui vont débattre de la montée de l'antisémitisme dans les milieux d'extrême gauche. Et le Doliprane est-il plus efficace en suppo?
Ceci était une analyse de Raymond Domenech.
C'est des vrais sujets.
Ça existe le Doliprane en suppo?
Bah écoute, tu le fais jamais?
Bah écoute, c'est le midi.
Ah franchement, je peux te dire, quand tu te le mets, t'as plus mal à la tête. Allez.
RMC, le Casar enchaîné.
Réécoutez Julien Casar en podcast sur rmc.fr et l'appli RMC.
Julien qui est de retour tout à l'heure pour un moment très important dans Rotten sans flamme, le quiz. Et peut-être cette cuillère de bois si Jérôme enchaîne une troisième défaite de suite. Dans une seconde, les 30 ans d'OM Milan, êtes-vous nostalgique de cette époque avec des présidents à la Bernard Tapie? Le débat au 32-16, à tout de suite.
Retrouvez Rotten sans flamme en direct chaque jour dès 18h sur RMC.